Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, W comme Wilder, Billy Wilder, avec Julie Michaud et Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large, un boulevardier crépusculaire qui a fini par se spécialiser vers les gros vaudevilles pour Georges Sadoul, le grand historien du cinéma. Le goût de Billy Wilder, reconnaissons qu'il est franchement mauvais, pimenté d'une tendance personnelle à affectionner les situations scabreuses et les spectacles répugnants, le tout baignant dans une laideur qui se retrouve à tous les échelons de la mise en scène, déploré Jean Douché en 1960 dans les cahiers du cinéma. Considéré aujourd'hui comme un grand maître classique du film noir et de la comédie hollywoodienne, avec des œuvres parmi les plus importantes de l'histoire du cinéma, comme Boulevard du Crépuscule ou Certains l'aiment chaud, Billy Wilder, on l'oublie aujourd'hui, fut longtemps l'objet, en dépit de son succès et sans doute aussi à cause de lui, de procès récurrents en vulgarité et en misanthropie. Vulgarité parce qu'il n'a pas hésité à filmer avec brio une situation scabreuse et turpitude lamentable, misanthropie parce que tous ses films, ou presque, ont exprimé, en tragique comme en burlesque, une vision pessimiste et désenchantée de la nature humaine en général et de la société américaine en particulier. Mais là où certains ont dénoncé en leur temps l'œuvre d'un Soulubitch cynique ricanant, c'est aujourd'hui le moraliste, certes ironique, qui s'est imposé. Billy Wilder était comme un maître d'œuvre qui connaît ses outils et les utilise au mieux pour forger la structure à laquelle il suspend les guirlandes de son humour et de sa sagesse, écrivait Marlène Dietrich dans ses mémoires. Pour étudier ses outils et dérouler ses guirlandes, Plan Large reçoit aujourd'hui Julie Michaud, qui a abordé avec précision l'œuvre du cinéaste sous l'angle de la musique diégétique, celle qu'entendent les personnages, dans un livre « Billy Wilder et la musique d'écran, filmé l'invisible ». Et Mathieu Macheret, auteur « Personne n'est parfait » d'un texte de présentation, celui de la rétrospective « Billy Wilder en cours à la Cinémathèque française ». Mathieu Macheret qui reviendra en fin d'émission sur une pépite du film noir ressorti mercredi dernier sur les écrans, Menace dans la nuit de John Berry, car le film noir, il faut le dire, Billy Wilder y est pour beaucoup.
Look, Keys, I'm not trying to whitewash myself. I fought it, only I guess I didn't fight it hard enough. The stakes were $50,000, but they were the life of a man, too. A man who'd never done me any dirt except he was married to a woman he didn't care anything about. And I did.
Have you phoned me? Walter.
I hate him. I loathe going back to him. You believe me, don't you, Walter?
Sure, I believe you.
I can't stand it anymore. What if they did hang me?
They're not going to hang you, baby.
It's better than going on this way.
They're not going to hang you because you're going to do it and I'm going to help you.
You know what you're saying?
Sure, I know what I'm saying. We're going to do it and we're going to do it right. And I'm the guy that knows how.
Walter, you're hurting me.
There's not going to be any slip-up. Nothing sloppy, nothing weak. It's got to be perfect. Call me tomorrow, but not from your house, from a booth. And watch your step every single minute. This is going to be perfect, you understand? Straight down the line.
Straight down the line.
Ah Assurance sur la mort, Double Indemnity, troisième film hollywoodien de Billy Wilder comme réalisateur. Il en avait réalisé un auparavant en France en 1934, Mauvaise graine, qu'on a redécouvert ces dernières années. Il faisait halte à Paris avant de rejoindre Hollywood. Quand il y arrive, c'est comme scénariste qu'il y travaille, notamment pour Ernst Lubitsch, son maître, on va en reparler. C'est lui qui scénarise notamment La huitième femme de Barbe Bleue et Ninotchka. Alors pour écrire Assurance sur la mort, Billy Wilder ne va pas s'associer avec son complice habituel Charles Brackett, celui avec qui il a écrit notamment pour Lubitsch. Non, il va faire appel à un grand écrivain de polar hard-boiled, Raymond Chandler. Ça sera son premier scénario d'ailleurs à Chandler. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans cette assurance sur la mort? La voix off du narrateur, une histoire racontée du point de vue d'un criminel, une femme fatale, une ambiance nocturne très inspirée de l'expressionnisme allemand. Billy Wilder, rappelons-le, y a participé, hein, à l'expressionnisme allemand comme scénariste à Berlin. Voilà Assurance sur la mort qui, comme d'autres films de la même période signés par d'autres réfugiés de la Mitteleuropa, Otto Preminger, Robert Siotmak, Fritz Lang et d'autres, va jeter les bases tout simplement d'un nouveau genre. Il va retourner les conventions et les clichés du film policier, du thriller traditionnel, et voilà que arrive le film noir.
Il y a plein de choses que le film en effet doit à Raymond Chandler. C'est aussi, il y a aussi le sens de la formule, hein. Il y a des dialogues qui sont croustillants, fins, ciselés, etc. Puis aussi des descriptions de très précises de d'intérieur avec beaucoup d'objets, le détail des objets, ça c'est aussi quelque chose qu'on doit à Chandler. Mais il y a évidemment déjà une mise en scène fabuleuse de Wilder. C'est un film qui raconte une arnaque à l'assurance. Cette façon de rentrer dans une nature humaine perverti, corrompu, dans un appât du gain mêlé de désir et d'emprise. Hein. Le personnage joué par Barbara Stanwyck est l'une des premières femmes fatales de la décennie.
Contre-emploi absolu, hein, d'ailleurs, pour tous les personnages de ce film, puisque Barbara Stanwyck jouait pour l'instant plutôt les héroïnes positives, que ce soit dans les screwball comédies ou dans les mélodrames. Le Fred McMurray, qui joue l'anti-héros du film, était plutôt un acteur comique, et Edward J. Robinson, à l'inverse, qui joue l'enquêteur virtueux et très malin, était plutôt habitué des rôles de gangster.
Ouais, c'est vrai. Et puis il y a une vraie alchimie dans le casting, un récit tortueux avec une voix off rétrospective qui nous invite à suivre l'histoire comme si c'était du passé, comme si tout était déjà joué. Et puis un véritable labyrinthe de signes. Hein. Moi, je pense, c'est ce qui est fascinant dans le film. Et Wilder, en effet, pose les bases du film noir. Il y a une scène extraordinaire dans la rencontre entre Barbara Stanwyck et Fred McMurray qui apparaissent. Pas au même niveau, hein. L'un est en bas, il vient d'ouvrir la porte. Barbara Stanwyck apparaît presque nue, à l'étage, comme ça, au bord d'une balustrade. Et puis très vite, la mécanique d'emprise va se nouer, et notamment grâce à un petit détail encore. C'est ça qui est fascinant dans ce film. C'est le bracelet de cheville de Barbara Stanwyck. Un
bracelet de cheville qu'on va retrouver plus tard chez Billy Wilder. Et c'est ça qui est très fascinant, Julie Michaud, c'est que quand on regarde les films de Billy Wilder, les uns après les autres, comme ça m'est arrivé pour cette émission, on repère des motifs, on va en faire émerger certains qui reviennent. C'est comme si Billy Wilder se citait lui-même, ou en tout cas faisait appel à la mémoire du spectateur, en se disant « il a certainement vu mes films d'avant et je vais me servir de ça pour enrichir mon film ».
Oui, il y a énormément d'échos, et c'est vrai que le bracelet de cheville, on le retrouve dans Ariane, de manière assez inattendue. Alors Ariane, qui n'est pas du tout un film noir, qui peut être considéré comme une comédie romantique, et on a cette jeune femme qui essaie de se faire passer justement pour une, alors peut-être pas une femme fatale, mais en tout cas une femme qui a beaucoup vécu, qui a connu beaucoup d'hommes, et qui va s'imaginer qu'en mettant un bracelet de cheville, et d'ailleurs ça fonctionne, elle va réussir à rendre fou un séducteur qui lui justement est un vrai séducteur. Et elle va réussir, notamment par cet artifice-là, mais aussi par d'autres, à faire en sorte qu'il tombe amoureux d'elle et qu'il n'en aime plus une autre. Et le bracelet de cheville n'en est pas un, c'est la chaînette qui est attachée à la boîte de son violoncelle et qu'elle va détourner, en fait. Le détournement qui est présent chez Wilder sous plusieurs formes et qui là est présent, effectivement, on a cet objet insignifiant, cette petite chaînette qu'elle va avoir l'idée de porter en bracelet de cheville en faisant croire que c'est un des hommes qu'il a passionnément aimé, qui le lui a offert, et ça va rendre Flanagan, interprété par Gary Cooper, complètement fou.
Voilà. Un bracelet de cheville, vous l'avez dit, qui vient d'un violoncelle, donc détournement de la musique. Alors on va beaucoup parler de musique avec vous, Julie Michaud, puisque je l'ai dit, vous avez abordé Billy Wilder sous l'angle de la musique. Alors ici, dans Assurance sur la mort, pas beaucoup de musique diégétique, comme je disais, c'est-à-dire de la musique qui est dans la scène que peuvent entendre les personnages, sauf un moment très étonnant, un moment clé du film qui est à la fin du film, quand les deux personnages vont se déchirer et s'entretuer. Quand ils arrivent, les voisins écoutent de la musique. Et là, l'ironie, le sarcasme de Billy Wilder est là, parce que les musiques qui sont un peu des tubes de l'époque qu'ils vont écouter résonnent de façon très antinomique avec ce que sont en train de vivre les personnages.
Oui, on entend, alors c'est très faible parce que ça vient d'une maison voisine, on entend Tangerine et My Ideal. Donc Mon Idéal et Tangerine, qui sont deux chansons d'amour qui ne sont pas chantées, donc on entend uniquement la mélodie et on les entend faiblement. Mais les spectateurs de l'époque connaissent ces chansons, ils savent que ce sont des chansons d'amour, et même quand on ne les connaît pas, on entend bien que c'est quelque chose de doux, de romantique, et on a cette musique qui pourrait être très bien cadrée avec une scène d'amour, mais qui va servir de toile de fond à une scène où, vous l'avez dit, les personnages se déchirent et où Barbara Stanwyck va finir par tirer sur Fred McMurray, et lui va la tuer en retour d'ailleurs.
C'est toujours un peu
détournement
compliqué.
À nouveau.
Les histoires d'amour chez Billy Wilder, c'est toujours un peu complexe.
Good evening.
You are Erica von Schlutow.
I am.
We have reason to believe that you are consorting with some member of our armed forces.
You have.
What's more, we think you're expecting him right now.
What gives you that idea?
The key you dropped.
Maybe I dropped it for the milkman.
Oh. She dropped it for the milkman.
Fräulein von Schlutow, if that's supposed to be a joke, you're joking up the wrong tree. Let me assure you, we are in no mood for flippancy. Facts, if you please.
Yes, facts.
You are an American woman?
We'll ask the questions here.
What is the name of the man?
Yes.
Johnny?
Johnny what?
I see you do not believe in lipstick. And what a curious way to do your hair, or rather not to do it.
Now, wait a minute. Do you know who you're talking to?
An American woman. And I'm a little disappointed, to tell you the truth. We apparently have a false idea about the chic American woman. Oh, I suppose that's publicity from Hollywood.
Now you're being impertinent.
Well, I must go back now. There's a curfew for German civilians, you know.
Yeah, there sure is. That's right.
Fräulein von Schlutow. We increased our national debt by some $350 billion to win this war. I would regard it as a waste of money if we didn't eliminate types like you.
Like you.
Perhaps if you would change the line of your eyebrows a little. Gute Nacht. Gute Nacht, Captain, whatever your name is.
Trio amoureux tout à fait scabreux dans La Scandaleuse de Berlin de Billy Wilder en 1948, entre un officier des forces d'occupation américaines, une congresswoman, députée américaine en visite, c'est Jean Arthur, qu'on vient d'entendre avec sa voix un peu agaçante, et la très voluptueuse Marlène Dietrich, Erika, chanteuse de cabaret et ancienne nazie. Billy Wilder, on a beaucoup dit qu'il était pessimiste, enfin il avait quand même quelques raisons de l'être, considérant la nature humaine. Rappelons qu'il est juif viennois d'origine. Il avait quitté Berlin au lendemain de l'incendie du Reichstag, mais sa famille, elle, avait décidé de rester à Vienne. Pendant la guerre, il est sans nouvelles de sa famille. Il débarque en Europe à la chute du nazisme. Il va d'ailleurs réaliser un documentaire, Les Moulins de la Mort, le premier documentaire sur la découverte des camps de concentration par les Alliés. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il apprend ? Il apprend que toute sa famille a été déportée et assassinée par les nazis. Alors, comme il avait le sens de la formule et de la provocation, Billy Wilder, il dira plus tard, ah oui, je suis pessimiste. Bah écoutez, il y a les optimistes et les pessimistes. Les premiers, les optimistes ont fini gazés. Les autres, les pessimistes, ont des piscines à Beverly Hills. Sauf que voilà, alors de ce drame, Billy Wilder aurait pu faire une tragédie. Lui, il en fait une comédie. quatre ans après avoir appris la disparition de sa famille, et c'est la scandaleuse de Berlin. Ce qui est très étonnant, Mathieu Macheret, c'est que cette personnage de congresswoman américaine devrait être, voilà, incarner la patrie, la vertu, etc. Elle est très agaçante, alors que le personnage de la nazie Marlène Dietrich est tout à fait sympathique.
Ouais, c'est un film qui est entièrement fondé sur le jeu des apparences, hein, voilà, des identités, de faux semblants comme ça qui vont circuler dans ce trio amoureux. Et même plus largement, le film parle de communication, de d'apparence au sens large, puisque cette congrégation de députés vient à Berlin pour s'assurer que les troupes américaines, voilà, sont héroïques et assument un rôle tout à fait
exemplaire,
alors que la réalité va s'avérer bien différente. Ça, c'est un motif qui est récurrent, absolument récurrent chez Billy Wilder. C'est-à-dire, voilà, une réalité donne une apparence. On aimerait bien que les choses soient exemplaires et donne des modèles. Et puis, on va rentrer dans ce que c'est que la réalité humaine. Et finalement, la réalité des soldats américains postés à Berlin dans l'après-guerre, ce sont des hommes qui cherchent à s'amuser, qui font des jeux d'argent, etc. Tout ce qu'on ne peut pas dire officiellement dans un rapport de député. Et le film tire une grande partie de ses effets comiques, justement, des différences entre ce qu'on aimerait que la réalité soit et ce qu'elle est effectivement, c'est-à-dire pétrie de turpitude humaine, hein, tout simplement. Et ça c'est très fréquent chez Wilder.
Et ça, c'est la nature humaine. Alors, ce qui est très passionnant, Julie Michaud, c'est que Billy Wilder, on l'a dit, fait référence parfois à ses propres films, mais il fait aussi référence en permanence à l'histoire du cinéma. C'est quelqu'un qui est très conscient et très cinéphile, certainement, de l'histoire du cinéma. Et quand il utilise Marlène Dietrich à Berlin, il sait très bien qui il utilise. Et à double titre, c'est-à-dire que d'abord Marlène Dietrich, qui joue ici une nazie, rappelons-le, est quelqu'un qui a soutenu fortement l'Amérique pendant la guerre. Elle était considérée comme traîtresse par les Allemands. Elle avait quitté l'Allemagne dès 1930. Mais c'est aussi Lola Lola, c'est la Lola Lola de l'Ange Bleu qu'il va utiliser. Ce qu'aurait pu devenir Lola Lola si elle était restée en Allemagne et qu'elle avait connu le succès sous le nazisme. Et même les chansons jouent là-dessus.
Oui, c'est ce double visage. Effectivement, les chansons peuvent être un petit peu ambiguës dans la façon, déjà dans les paroles, et dans la façon dont Marlène Dietrich les chante. Il y a cette chanson Black Market, qui est peut-être la plus célèbre du film, donc Marché Noir, qui fait référence au Marché Noir qui se déroule effectivement à Berlin à cette époque, mais qui est aussi un petit peu ambiguë au sens où Marlène Dietrich a l'air de sous-entendre qu'elle va offrir ses charmes contre marchandises. Et c'est quelque chose que l'on retrouve justement...
La prostitution est aussi un grand thème,
oui,
grand thème de Billy
Wilder. Bien sûr, la prostitution sous toutes ses formes. Et cette idée de marché noir et d'offrir éventuellement ses charmes pour avoir en retour du café, du sucre ou que sais-je encore, on la retrouve dans Témoin à charge, dans les années 50, où on a un flashback qui nous montre à nouveau Marlène Dietrich en chanteuse de cabaret, qui va rencontrer un militaire britannique présent à Hambourg, cette fois c'est plus Berlin, c'est Hambourg, et qui va un petit peu traiter avec lui. Bon, finalement ils vont repartir ensemble, se marier, mais à nouveau il y a une relation un petit peu bizarre, parce que Marlène Dietrich est déjà mariée, elle va le cacher à cet homme, on pensera qu'elle est une femme fatale, une profiteuse,
parce qu'on a vu la scandaleuse de Berlin,
et il n'en est rien. Et un tout petit détail, on parlait de détails chez Wilder, que j'ai repéré tout à fait par hasard en visionnant pour la énième fois Témoin à charge, c'est que dans, alors on ne peut pas appeler ça une chambre, hein, c'est une espèce d'endroit attenant au cabaret où Marlène Dietrich a son lit et puis un petit coin pour se faire son café, etc. Il y a au mur une photo d'elle, Marlène Dietrich, dans La Scandaleuse de Berlin, dans une scène du film, en train de chanter en robe de scène. Mais la photo est vraiment toute petite et elle est pas, elle ne saute pas aux yeux. Donc c'est vraiment une espèce de petit cadeau que Wilder fait à ceux qui vont visionner encore et encore ces films et qui vont être attentifs à chacun des détails. Et ça renvoie encore cette image assez troublante de Marlène Dietrich et ce lien entre la vraie Marlène Dietrich qui a effectivement chanté pour les troupes et soutenu la cause des alliés, et puis le personnage de cinéma qu'elle incarnait.
Et en plus, elle est accompagnée au piano par un certain Frédéric Hollander, oui, qui, quand il s'appelait Friedrich Hollander, avait composé les chansons de Lola Lola. Il faut toujours aller chercher et creuser chez Billy Wilder.
Wait a minute, haven't I seen you before? I know your face.
Get out, or shall I call my servant?
You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures, used to be big.
I am big. It's the pictures that got small.
Uh-huh. I knew there was something wrong.
They're dead. They're finished. There was a time in this business when they had the eyes of the whole wide world. But that wasn't good enough for them. Oh, no. They had to have the ears of the world, too. So they opened their big mouths, and out came talk. Talk, talk.
That's where the popcorn business comes in. You buy yourself a bag and plug up your ears.
Look at them in the front offices. The masterminds. They took the idols and smashed them. The Fairbankses, the Gilberts, the Valentinos. And who have we got now? Some nobody.
Don't blame me. I'm not an executive, just a writer.
You are. Writing words. Words. More words. Well, you've made a rope of words and strangled this business. But there's a microphone right there to catch the last gurgles. And Technicolor to photograph the red swollen tongue.
You wake up the monkey.
Get out! Max!
Next time I'll bring my autograph album along. Or maybe a hunk of cement and ask for your footprint.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Billy Wilder avec Julie Michaud et Mathieu Macheret. On saura donc pourquoi il y a du pop-corn dans les salles. C'est pour se bourrer les oreilles et ne pas entendre les dialogues. Que dire encore sur Boulevard du Crépuscule, Sunset Boulevard? C'est quand même le classique absolu. Je pense que c'est un des films les plus commentés, disséqués de Billy Wilder. C'est une légende à lui tout seul. Sauf que 70 ans après sa réalisation, on ne le voit peut-être plus du tout, Mathieu Macheret, comme les spectateurs de l'époque. Puisqu'il faut quand même rappeler que Nora Desmond, qu'on vient d'entendre, Gloria Swanson, quand elle regarde dans son salon les films qu'elle a fait, comme Kun Kelly d'Eric von Stroheim. Ben le film de Kun Kelly, il est sorti en 1932, c'est-à-dire 18 ans avant la sortie du film. C'est très peu de temps. Nous, quand on le regarde, on a à la fois ce sentiment de voir un film sur la grande époque du cinéma muet, mais aussi sur le cinéma classique. Quand on voit Cécile B. 2000, par exemple, qui en plus joue son propre rôle, hein, puisqu'il tourne effectivement sans son aide à Lila, il est avec son équipe technique dans son studio quand Gloria Swanson, Nora Desmond va le visiter, ben nous on le voit avec beaucoup plus de distance aujourd'hui que les spectateurs le voyaient à l'époque.
Ouais, on le voit comme un film réflexif, bien sûr, sur la machine à dévorer les êtres, les comédiens, les artistes qu'est Hollywood, et puis aussi comme un film qui, quelque part, je dirais pas que c'est un manifeste pour Billy Wilder, mais c'est un film qui marque sa position dans l'histoire du cinéma américain. C'est-à-dire quelqu'un qui vient après, pas après le classicisme, mais disons dans la phase terminale du classicisme. Hein, c'est quelqu'un qui fera l'essentiel de sa carrière après-guerre. Et après-guerre, le cinéma américain est brisé. Il y a une conscience qui n'est plus la même que l'optimisme d'avant-guerre, des années 30, 40, etc. Quelque chose a changé. Il y a un scepticisme qui s'empare un petit peu de cette génération-là. Et Billy Wilder, il montre la face cachée d'Hollywood. Il montre la cruauté qui régit un petit peu les rapports. Alors c'est pas nouveau, hein, parce que encore une fois, on peut en parler de Marlène Dietrich tout à l'heure, mais on peut comparer le film avec un autre qui avait tourné bien avant, l'un de ses confrères d'origine viennoise, Joseph von Sternberg, avec Crépuscule de gloire, qui parlait des figurants à Hollywood, hein, à quel point ils sont broyés, à quel point c'est une espèce d'usine à corps disponible, etc. Et il y aurait beaucoup de rapports à établir entre les deux films, mais le principal personnage de Boulevard du Crépuscule, c'est ce qui fait aussi le côté un peu sulfureux du film, c'est, dit à demi-mot, une sorte de gigolo, comme Wilder avait été lui-même gigolo à Berlin dans ses années de scénariste.
Dans les dancing de la République de Weimar, oui. Alors, question musique, là encore, il y a des choses assez passionnantes à voir dans ce Boulevard du Crépuscule. Julie Michaud, il y a la première occurrence d'un motif qui sera très récurrent chez Billy Wilder. On en reparlera au moment d'Ariane, l'orchestre privé qui est là pour séduire, la fameuse scène de tango pour le réveillon du premier de l'an. Mais il y a aussi cette utilisation très psychologique de la musique chez Wilder. On se souvient de cette scène finale où Nora Desmond descend le grand escalier entourée de reporters et de policiers, croyant qu'elle tourne la scène de son Salomé pour Cécile B. 2000, alors que ce sont des caméras d'actualité. Mais il y a une musique, alors là, qui pour le coup n'est pas une musique diégétique, c'est une musique de fausse, comme on dit, une musique de film, mais elle l'entend, cette musique.
Oui, elle l'entend, donc c'est une façon et ça arrive à d'autres moments chez Wilder, de nous montrer, ou de nous faire entendre plutôt, ce que pense un personnage. Donc c'est une espèce de ce qu'on pourrait appeler une voix off musicale, c'est-à-dire qu'au lieu d'entendre le personnage réfléchir avec des mots, on entend cette musique qui est censée illustrer ses émotions, ses sentiments au moment précis de la scène. Et effectivement, la scène finale de Boulevard du Crépuscule, que tout le monde connaît, est une scène extrêmement cruelle, dans laquelle, eh bien, le personnage principal, donc de Norma Desmond, a l'impression qu'elle est en train de tourner sa grande scène de descente d'escalier. Hein, comme vous l'avez dit, elle pense que les caméras sont des caméras de cinéma, alors qu'en fait, on est en train de filmer sa déchéance. Et donc, cette descente d'escalier qui pourrait être quelque chose de positif, l'ai-je bien descendu, en fait, c'est une façon pour elle d'arriver au plus bas, finalement, et d'être emmenée par la police ou en hôpital psychiatrique. Bon, on ne sait pas. Ça n'a pas d'importance, puisqu'on termine sur un gros plan et une perte de la mise au point. Hein. C'est comme ça que le film se termine. Et donc, on a cette contradiction totale entre ce que pense le personnage et son comportement à ce moment-là, qui est illustré par cette musique que personne n'entend sauf le personnage et sauf le public du film, et ce qui arrive vraiment.
Now, suppose you tell me everything you know about her.
I know nothing, except that her name isn't Adolf.
Not Adolf. Well, that narrows it down considerably. Where did you meet her?
In my suite at the Ritz.
You invited her?
No.
You mean she just walked through the door?
No, through the balcony.
Isn't that rather peculiar?
Not for her. She's a very peculiar girl.
What does she look like?
Well, some sort of...
Say no more, monsieur. I know your type. Very voluptuous. Always 3-4 pounds overweight.
No, not this one. She's on the lean side. A mere wisp of a girl. Not my type at all.
She must have something.
Definitely. She's got an uncanny talent for getting under my skin. I don't know where she comes from. I don't know where she goes. I suspect, but I'm not sure.
You suspect what?
Well, it seems there are other men. Quite a few of them. As a matter of fact, quite a lot of them. Then again, she may be pulling my leg, and then again, she may not. How about that aspirin?
Of course. There is no extra charge.
Headache, Papa?
No, I feel fine. It's the client. Hit and run, lover. Got run over himself.
To look at her, you'd think she was a student or something.
How many?
19.
19 aspirins.
2 aspirins. 19 men.
Uh-huh.
Cut it out. We have heard enough of that.
I'm sorry.
Arrêtez de chantonner, fascination, ça m'énerve, dit Gary Cooper, Frank Flanagan, à Claude Chavas, Maurice Chevalier, le détective privé à qui il a demandé d'enquêter sur cette mystérieuse jeune femme dont il ne connaît que l'initiale du prénom, A comme Ariane, mais ça il ne le sait pas, que Ariane c'est Audrey Hepburn, la fille du détective privé qui elle-même a commencé à chantonner cette chanson en se lavant les cheveux. C'est sans doute, Mathieu Macheret, le film le plus loubitchien de Billy Wilder, ou en tout cas il affiche ses sources. On est dans un Paris, un Paramount Paris, comme disait Lubitsch. Il y a Maurice Chevalier comme chez Wilder, il y a Gary Cooper, dont on a le sentiment que c'est le même personnage de milliardaire que la 8e femme de Barbe Bleue 20 ans après.
Alors oui, c'est un de ces deux films très Lubitschiens, parce que j'en mettrai un autre dont le titre m'échappe sur le moment, mais c'était une opérette un peu viennoise.
Oui,
La valse de l'empereur.
Voilà, merci beaucoup.
La seule comédie musicale, on va en parler tout à l'heure.
Ouais, exactement. Donc c'est vraiment les deux pôles Lubitschiens. En effet, le film se joue dans un sorte de décor fantasmé. Il y a la présence de Maurice Chevalier qui fait penser aussi au film de Lubitsch. Et puis bon, il y a cette anecdote extrêmement connue d'un Wilder qui avait affiché dans son bureau une pancarte, une espèce de mémo qui lui disait qu'est-ce que Lubitsch aurait fait, et qu'il regardait dans les moments de difficulté.
On peut le voir au musée du cinéma de Berlin. C'est brodé au fil comme ça.
Ouais.
C'est très joli.
Ouais, c'est ça. Oui, enfin, ça fait partie un petit peu de ces films d'héritage où il marque vraiment ça. Voilà, cette cette filiation et puis son admiration pour ce maître pour lequel, avec lequel il a tout appris, en écrivant évidemment des scénarios formidables avec son compère, on peut le citer aussi, Charles Brackett, hein, parce qu'ils avaient formé un véritable duo qui fonctionnait du tonnerre. Alors il va au bout d'un moment se séparer de Charles Brackett, c'est quelque chose qu'il raconte, voilà, et c'est, il a décidé de se séparer de lui. Il va entamer par la suite un autre partenariat extrêmement fécond avec second scénariste qui s'appelle E.L. Diamond.
Easy Diamond,
voilà. Oui, exactement. Mais en tout cas, il y a dans ces pairs que forme Wilder quelque chose d'une, voilà, d'une énergie de création, d'un échange comme ça qui est extrêmement intéressant et qui marque aussi une vraie rupture dans sa filmographie. Hein. On peut vraiment caractériser les films avec Brackett et ceux avec E.L. Diamond. Ce sont deux périodes très distinctes avec des films très différents.
Alors, Ariane repose, on l'a entendu, pour beaucoup et peut-être principalement sur la musique, Julie Michaud. Il y a donc ce milliardaire qui, pour séduire les femmes, parce qu'il n'est pas un grand parleur, embauche un quatuor de musiciens hongrois, gitans, les Gypsies, comme ils sont crédités au générique, qui le suivent en toute occasion. Et là, on atteint un délire presque cartoonesque, c'est-à-dire qu'ils le suivent jusqu'au bain turc.
Oui, c'est extraordinaire parce qu'on aboutit à des scènes. Alors, on est dans une comédie, évidemment, hein, et Wilder est conscient qu'il y a forcément des choses qui ne peuvent pas être vraisemblables, mais que le public va accepter puisqu'on est dans une comédie. Et on a effectivement ces musiciens de tziganes qui sont là pour aider Flanagan à séduire, donc qui vont venir tous les soirs à la même heure dans sa suite jouer les mêmes morceaux dans le même ordre, qui vont repartir toujours à une heure dite en mettant les criteaux ne pas déranger sur la porte, hein. Donc c'est eux qui font tout le travail finalement de séduction et qui jouent notamment Fascination. Donc c'est pour ça qu'on a cette espèce de fil directeur tout au long du film. Et comme vous l'avez dit, on a ces musiciens qui vont aller jusqu'au bain turc suivre Flanagan. Donc là, on a une scène totalement irréaliste parce qu'on ne peut pas jouer du violon, de l'accordéon ou autre dans un hammam, hein, c'est vraiment pas possible. Et puis les pauvres instruments ne s'en sortiraient pas non plus. Mais on a donc ces musiciens très professionnels en costume, hein, qui vont venir jouer malgré l'humidité, malgré la chaleur, et qui vont jouer aussi bien que s'ils jouaient dans un lieu tout à fait propice à jouer.
Let's go!
You don't want me, sugar. I'm a liar and a phony, a saxophone player, one of those no good nicks you keep running away from.
I know, every time.
Sugar, do yourself a favor. Go back to where the millionaires are. The sweet end of the lollipop, not the coleslaw in the face, the old socks and the squeezed out tube of toothpaste.
That's right, pour it on. Talk me out of it.
I call Mama. She was so happy she cried. She wants you to have her wedding gown. It's white lace.
Yeah, Osgood, I can't get married in your mother's dress. She and I, we are not built the same way.
We can have it altered.
Yeah, no, you don't. Osgood, I'm going to level with you. We can't get married at all.
Why not?
Well, in the first place, I'm not a natural blonde.
Doesn't matter.
I smoke. I smoke all the time.
I don't care.
Well, I have a terrible past. For 3 years now, I've been living with a saxophone player.
I forgive you.
I can never have children.
We can adopt some.
But you don't understand, Osgood. I'm a man.
Well, nobody's perfect.
Voilà, je ne suis pas sûr qu'il faille préciser d'où sort cette scène. C'est évidemment, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on les envie parce qu'ils vont le découvrir. C'est la scène finale de Certain Lame Show, Some Like It Hot, Billy Wilder, en 1959. Alors, sans doute, là encore, un des films les plus étudiés, analysés, notamment cette scène finale qui a fait le bonheur des queer studies, hein, des études de genre, notamment aux États-Unis. Mais ça va beaucoup plus loin, il me semble, Mathieu Macheret, parce que chez Billy Wilder, il y a sans arrêt du mensonge, il y a sans arrêt du travestissement, il y a des troubles d'identité, de la perte d'identité, et tout ça finit par perdre complètement les personnages qui en deviennent quasiment schizophrènes, comme Jack Lemmon ici à la fin, à la fin de Certain Lame Show.
Ah, c'est le cas dans Certain Lame Show parce que il y a le motif du déguisement chez Billy Wilder qui est quelque chose qui est lié profondément chez lui aux fondements très classiques de la comédie, hein. C'est presque des choses canoniques dans la comédie qui remontent très très loin, presque aux comédies antiques, etc. le déguisement, évidemment. Parce que chez Billy Wilder, il y a ceci de notable, que les personnages sont souvent victimes de leur costume, victimes du costume social qu'ils portent, auquel ils se conforment, qui est un rôle dicté comme ça par les normes.
La biffe et le moine chez Wilder.
Voilà, la biffe et le moine, et souvent les aventures, les problèmes auxquels sont confrontés ces personnages sera celui de changer de costume et de découvrir que sous le monde de la normativité, de la société américaine telle que tout le monde s'y conforme, il y a un autre monde, hein, de passion, de pulsion, de sexualité aussi, parce que c'est, les personnages de Wilder découvrent une forme de sexualité très souvent. C'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a accusé de vulgarité, puisque c'est un de ses sous-textes très fréquents. Enfin, même pas tellement un sous-texte, hein, tellement ça affleure facilement. Mais voilà, Wilder aura été quelqu'un qui, dans ce cinéma où le code Hays est de plus en plus relativisé pendant l'après-guerre, aura fait monter la sexualité de manière de plus en plus franche dans l'image, à l'écran, et aura affronté ça.
Alors évidemment, il y a la sexualité très apparente de certains Lame Show. C'est Marilyn Monroe qui est d'une sensualité à se damner, qu'elle chante, qu'elle parle, qu'elle danse. Enfin, c'est absolument extraordinaire. C'est peut-être, alors vous avez évoqué La Valse de l'Empereur tout à l'heure, qui est quand même peut-être pas le meilleur film de Billy Wilder, mais on a souvent l'impression qu'il est tout au bord de la comédie musicale et qu'il ne manquerait pas grand-chose pour y basculer, et notamment, Julie Michaud, dans ce film Certains Lame Show, parce que quand Marilyn Monroe chante, certes, elle chante parce qu'elle est chanteuse et qu'elle est avec un orchestre dans le film, mais tout ce qu'elle chante, et ses chansons hyper célèbres du film, sont là pour dire quelque chose. On est comme dans la comédie musicale, ce qu'elle ne peut pas exprimer par la parole, elle le dit par le chant, et ça reflète complètement son état d'esprit.
Oui, c'est vrai qu'il y a trois chansons dans Certains Lame Show. Il y a Running Wild, que Marilyn répète dans le train avec l'orchestre, et qui est une chanson qui exprime le désir de quitter un quotidien pour se jeter à corps perdu dans une nouvelle vie, ce que fait Marilyn, son personnage en tout cas, à ce moment-là. Il y a I Wanna Be Loved By You, qui est ultra célèbre aussi, et que Marilyn chante au moment où elle pense avoir rencontré le milliardaire de ses rêves. Donc, encore une fois, travestissement, puisque c'est Tony Curtis qui s'est travesti en Josephine et qui maintenant se travestit en faux millionnaire pour la séduire. Et puis, donc, quand elle chante « I wanna be loved by you », elle le cherche des yeux dans la salle. Alors, évidemment, elle ne peut pas le trouver puisqu'il est membre de l'orchestre et elle ne le sait pas. Et puis, à la fin du film, elle chante « I'm through with love », je n'en peux plus de l'amour, je ne veux plus aimer à nouveau, parce qu'elle a appris que le milliardaire dont elle était tombée amoureuse s'en va. Alors, pour l'Amérique du Sud, en tout cas, c'est ce qu'il lui raconte. Et on parlait d'érotisme, il y a également ses tenues, des robes qui sont vraiment très près du corps et quasiment transparentes. Et puis la couleur des tenues. Alors c'est un film en noir et blanc, mais lorsqu'elle chante « I wanna be loved by you », elle est en blanc. Et lorsqu'elle chante « I'm through with love », elle est en noir. Hein. Elle est désespérée. Elle finit la chanson d'ailleurs en pleurant.
La subtilité toujours dans la mise en scène, sans des petits motifs comme ça qu'on peine à déceler chez lui. Alors Marilyn Monroe, évidemment, Billy Wilder va renoncer à tourner avec elle. Hein, c'est très célèbre. Tony Curtis racontera beaucoup combien c'est difficile de tourner avec Marilyn Monroe. En revanche, Certains Lame Show, c'est la découverte par Billy Wilder de Jack Lemmon. Ils vont faire sept films ensemble, dans La Garçonnière, chef-d'œuvre là encore, ou Irma la Douce, et puis un autre dont on va parler dans un instant. Qu'est-ce que Billy Wilder trouve chez Jack Lemmon qui va en faire son acteur fétiche, Mathieu Macherey?
Alors, c'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'il y a une alchimie extraordinaire. Il trouve, je crois, alors c'est une hypothèse, hein, je veux pas plaquer une interprétation, mais je crois qu'il trouve un héritier de la tradition burlesque, du burlesque, qui est la plus ancienne tradition comique hollywoodienne. Hein. Voilà, c'est un type d'humour qu'a inventé Hollywood dans ses premiers temps. Et Lemmon est vraiment dans la lignée des Chaplin, des Keaton, des Harold Lloyd, etc. Il a quelque chose de corporel. Hein. Non seulement il est très habile avec sa voix, il parle rapidement, il a plusieurs vitesses, etc. Mais en plus, il joue de son corps. Il y a des chutes, il y a toujours des gags corporels. Et je pense que ça, c'est très important pour Wilder, que l'acteur ne soit pas seulement une tête qui parle. Alors, on parlait de Marilyn tout à l'heure, on parlait de Marlène Dietrich. Et bien, la corporalité de Lemon, c'est justement ce burlesque d'un corps contrarié entre à la fois un rôle qu'on lui colle et puis des aspirations très profondes qui font dérailler, quoi. Alors, voilà, c'est une hypothèse, mais je pense qu'elle est, voilà, elle peut marcher.
Mr. Armbruster, Sir Carlucci, this is Alberto Trotta. Arnoldo Trotta, Alfredo Trotta, Adolfo Trotta, this is Papa Trotta and Uncle Trotta, this is Grandpapa Trotta, and I am Armando Trotta.
That's a lot of Trotters.
You bet your sweet patuti.
Arnoldo and I, we used to work with American Armed Forces. Black market.
What's your racket now? Body snatching?
Mr. Armbruster, we sit down and write you nice business letter asking for damages. And the Signor Carlucci, he calls on telephone and tells me to screw.
I did not say screw. I said sue.
Sue? You take bodies out of country, we take us to court. It takes many years. And in the end, all the money, he goes to lawyers.
So you just stole them?
Stole? That is such an ugly word. Let us say we are keeping them temporarily in escrow?
Where?
They are very comfortable. With candles all around and a babysitter.
And you will get them back as good as new for 2 million lire.
They think I'm some kind of a sucker. 2 million lire for a piece of broken wall and some crushed grapes?
That's nothing. But when there has been death in vineyard, the wine it turns sour.
Who says so?
It's old Italian proverb.
Vous écoutez France Culture plein sur Billy Wilder avec Julie Michaud et Mathieu Macheret. C'est dur de ne pas rire en écoutant cet extrait d'Avanti, Avanti, Billy Wilder en 1972. Billy Wilder commence à avoir des problèmes à Hollywood. Hein. La grande combine dont vous parliez tout à l'heure a fait un flop. La vie privée de Sherlock Holmes a été charcutée honteusement par le distributeur. Il va partir en Europe, il va partir en Italie, il va partir près de Naples sur une petite île tournée Avanti. Et un personnage dira à un moment dans le film, l'italien c'est merveilleux, on a l'impression que tous les mots sortent d'un opéra. Et même dans cette scène là qu'on vient d'entendre, où il ne parle pas italien, mais il parle avec un accent italien, on sent qu'il y a un plaisir de la musicalité des dialogues chez Billy Wilder.
Oui, en effet, dans Avanti, on a ce personnage de jeune anglaise qui vient donc sur l'île d'Ischia et qui est... Bon, alors elle vient pour enterrer sa mère. Sa mère est morte tragiquement, donc c'est vraiment pas des vacances. Mais sur le petit ferry qui l'emmène sur l'île d'Ischia, elle est en train de potasser un petit guide. Et puis elle dit à Jack Lemmon, ils ne se connaissent pas encore, qu'il y a une foule de pâtes différentes en Italie, donc elle s'intéresse à cela et effectivement elle dit tout semble sorti d'un opéra en italien. Et on a Jack Lemmon en face d'elle qui lui est venu également enterrer son père. En fait, son père et la mère de la jeune femme étaient amants, mais ça on le saura après. Et qui lui a ce côté beaucoup plus terre à terre. Qui n'a aucune intention de s'intéresser à ce qui l'entoure, qui est venu pour régler les détails concernant le décès et l'enterrement de son père et le rapatriement du corps, et donc qui a des contraintes d'efficacité finalement, et qui se fiche complètement du reste, mais qui va évidemment évoluer au cours du film, grâce à cette jeune femme, grâce à l'ambiance, et grâce à la musique à nouveau diégétique, puisqu'on a un orchestre attaché à l'hôtel, un orchestre napolitain qui va jouer des airs romantiques lorsqu'ils mangent justement ces fameuses pâtes. Et on va venir juste avant leur proposer différents types de pâtes et le serveur va énumérer donc en italien tous les types de pâtes possibles. Et on a à nouveau cette musicalité et ce débit de parole qui est intéressant. Donc cet orchestre qui va également jouer un rôle important, cette fois-ci avec des morceaux chantés des morceaux très romantique. Et Jack Lemmon qui a une mimique extraordinaire à un moment, enfin ça dure une fraction de seconde, parce que donc il est en train de manger à cette table avec la jeune femme, l'orchestre s'approche d'eux et commence à roucouler ce morceau. Et Jack Lemmon, à un moment, lance un regard à l'orchestre, ou au chanteur en tout cas, qui est vraiment splendide, parce qu'il a cette façon de désapprouver. Et puis évidemment, l'orchestre va continuer et ça fera son effet.
D'autant que Jack Lemmon, qui est mis à nu littéralement dans ce film, scène très étonnante de baignade avec caleçon filant au fil de l'eau. Ce film est sans doute le moins cynique, il me semble, de Billy Wilder. C'est une sorte d'éloge de l'art de vivre et de la possibilité de vivre quelque chose d'authentique.
Oui, c'est ça. C'est pas un film cynique, c'est un film mélancolique. Voilà, où l'humour, parce qu'il est très drôle aussi, Avanti, est toujours basé sur une espèce de mélancolie, qui est liée aussi à l'événement inaugural, c'est-à-dire la mort des parents, voilà, qui entoure un petit peu le film. Et leurs deux enfants, Jack Lemmon et Juliette Mills, vont être amenés à marcher dans leurs pas, à refaire un peu tout ce qu'ils faisaient.
À porter leur costume, là, on parlait encore de l'habit fait le moine.
Oui, exactement, à porter leur costume, et puis, voilà, à revivre un petit peu tout ce qu'ils ont vécu. Alors, pour Jack Lemmon, qui est l'homme d'affaires pragmatique, qui est affairiste, etc., il va en effet apprendre à se laisser pénétrer par cette symphonie de sensations que représente l'Italie. Alors, couleurs, nourriture, vin, musique, etc., et à profiter un petit peu du temps présent. C'est pour ça que le film a un rythme aussi assez étonnant. Le film est long, il fait 2h20, je crois, à peu près. Et on n'est pas dans l'abattage comique comme pouvait l'être un film comme 1, 2, 3, par exemple. Voilà, c'est un film qui prend son temps. C'est d'ailleurs sa principale leçon, apprendre à prendre son temps, etc. Et l'humour est toujours amorti comme ça par cette temporalité étonnante. Et évidemment, il y aura. Wilder aboutit à ce qu'il a toujours un peu voulu faire, on le sent à Hollywood. Mais là, on est dans les années 70, donc le cinéma est beaucoup plus permissif. On accusera Avanti d'être un peu décalé, d'ailleurs un peu anachronique par rapport à son époque. Mais il va pouvoir filmer ses acteurs nus. Voilà, nu dans une scène de baignade géniale. Alors Juliette Mills, on peut dire dépoitraillée entre guillemets, et puis Jack Lemmon les fesses à l'air. Donc voilà, il arrive, il trouve la vérité de ses personnages en les dénudant et en montrant cette sexualité à l'air libre qui peut enfin fleurir par-dessus toutes les conventions sociales.
Nobody else but you. I want to be loved by you alone. Boop, boop, be doo. I want to be kissed by you, just you. Nobody else but you. I want to be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.
Merci Julie Michaud. Votre ouvrage Billy Wilder et la musique d'écran, filmé l'invisible et aussi le très visible, comme Marilyn Monroe quand elle chante et danse, c'est aux éditions Épure, les presses universitaires de Reims. En mai 2019 paraîtra également Billy Wilder cinéma politique, vous l'avez dit Mathieu Macheret, et Le poids de l'histoire d'Emmanuel Burdeau chez Lux Éditions. Et en attendant, vous pouvez toujours vous procurer la petite monographie de Noël Simsolo aux éditions des Cahiers du cinéma. La rétrospective Billy Wilder à la Cinémathèque française se poursuit jusqu'au 8 février. Ne ratez surtout pas la dernière séance le vendredi 8 février, donc à 19h30. Mathieu Macheret en personne viendra présenter ce film méconnu qu'est La Grande Combine, avec le duo Jack Lemmon et Walter Matthau. Et puis dans les bonnes salles de répertoire, vous pouvez également découvrir les copies restaurées de 7 ans de réflexion de Certains Lèmes Chaud et de La Garçonnière. Je vous signale encore, pour ceux qui voudraient se replonger dans l'ambiance gothique et muette de Boulevard du Crépuscule, la rétrospective Universal, un studio de légende à la Fondation Jérôme Sédou Pathé à Paris. C'est jusqu'au 29 janvier, avec des films de Paul Leni, de Todd Browning, de John Ford et même d'Eric von Stroheim. Et puis aussi un cycle sport et cinéma au cinématographe de Nantes. C'est à partir de ce soir jusqu'au 19 février, histoire de prolonger le plan large du 16 juin dernier que nous avions fait avec Julien Farreau, qui présentera son excellent Empire de la Perfection le 30 janvier. Et enfin la 6e édition, déjà, de l'excellente manifestation Viva Patrimoine au Luxe de Valence, du 23 au
au 29 janvier, qui rendra notamment hommage à Youssef Chahine. Vive le patrimoine, en effet, vive ceux qui le rééditent et qui nous permettent de découvrir des pépites comme ceci.
Good coffee. Come on, come on, sit down. What are you standing for? Don't worry, I'm leaving. Anybody see a newspaper this morning?
It didn't come.
Sure it did.
Okay, Pop, where is it?
It didn't come.
Come on!
We won't tell a soul. We'll put her out of our minds. Trust us. Go down the stairs. Leave now.
Please.
Go, please go, Nick.
We don't mean any harm. We've never hurt anyone in our whole life.
For your own sake, do what they say.
You all want me to go? Sure. You too.
I didn't see the paper, Nick. I didn't know. If I had, I would have told you. I would have warned you.
Go out in the street and get my guts splattered all over the sidewalk? That's what you want me to do? So you can say they got Nick, that poor, dumb slob? Where can I go that safe? Where? I'm staying here.
You can't. That phone you pulled off the wall. Somebody will report it out of order. The phone company will send a man.
What?
We've got to go to work.
You just try.
We've got to buy food. We've got to go on with our lives. That's my girlfriend.
Nobody leaves.
She'll come up the steps. She'll knock on the door. Dad! Oh, don't! Nick, don't!
Menace dans la nuit, He Ran All the Way en version originale, un film sorti en 1951, la même année que Le Gouffre Chimère de Billy Wilder. Menace dans la nuit est un film sur le malheur, ce n'est pas un hasard, je voulais tourner l'histoire ainsi, dira des années plus tard son réalisateur, John Berry. Malheur pour l'acteur John Garfield, dont ce sera le dernier film avant sa mort d'une crise cardiaque à 39 ans, un an après avoir refusé de donner des noms à la commission des activités anti-américaines. Malheur aussi en cette tente de chasse aux sorcières McCarthyste pour une bonne partie de l'équipe, le scénariste Dalton Trumbo, un des 10 d'Hollywood, il est alors en prison, son prête-nom Guy Endor lui aussi sera blacklisté, comme les producteurs, comme deux autres comédiens, et bien sûr comme John Berry lui-même. Il a été dénoncé comme communiste par Edward Mitry, qu'il refusera à son tour de témoigner, il va s'enfuir en France, c'est là qu'il poursuivra et finira sa carrière. Menace dans la nuit n'est donc pas seulement une pépite du film noir, c'est aussi un acte de résistance, la traduction en image d'un destin tragique dont les créateurs du film avaient le sentiment très concret, Mathieu Macherey.
Bah oui, c'est exactement ça. C'est difficile de le séparer des circonstances, du contexte où il a vu le jour. Puis difficile de le voir aussi sans un pincement au cœur parce que le film représente, témoigne du sacrifice d'une génération qu'ont causé les purges McCarthyste à Hollywood. Une jeune génération extrêmement talentueuse. Alors il y a John Berry, bien sûr. On peut penser aussi à Jules Dassin, Joseph Losey, au scénariste Dalton Trumbo, dont les carrières ont été comme ça sabrées à leur début. Donc ce dernier film américain de John Berry, il est aussi caractéristique d'un format, c'est celui de ces séries B ramassées. Le film dure à peine plus d'une heure et quart. Séries B percutantes, inventives, concises, efficaces, qui étaient des véritables laboratoires formels et narratifs, tels qu'Hollywood en produisait à l'appel à l'époque. Et donc le film sera lui aussi sacrifié, il fera un bide, Menace dans la nuit, qui est un film noir adapté d'un roman de Sam Ross. À le revoir aujourd'hui, il fascine vraiment par le dynamisme de sa mise en scène, son expressivité formelle, le chef opérateur, c'est le grand James Wong Ho, ainsi que pour sa forte teneur sociale. Alors avec son personnage de petite frappe minable qui est joué par John Garfield, le film renvoie avant tout aux fictions criminelles des années 30, celles qui étaient imprégnées d'un réalisme urbain qui puisaient leurs anti-héros dans les bas-fonds de la ville. Et on comprend que le McCarthyisme qui avait frappé Hollywood, c'était pas seulement seulement une traque des idéologues communistes infiltrés dans les rangs des studios, mais aussi un profond désaveu du cinéma du New Deal, qui avait fait preuve d'un véritable propos social et politique. On peut penser par exemple à Monsieur Smith au Sénat de Frank Capra, qui avait été écrit par Sidney Buckman, un scénariste ouvertement communiste à l'époque. Donc Menace dans la nuit, qui est l'héritier de tout ça, déroule un récit haletant, mais tout en ligne brisée, qui ne cesse de changer de peau. Alors c'est d'abord l'histoire d'un petit voyou, Nick Robey, qui est joué par John Garfield, qui se réveille dans une chambre sordide. Le film devient en deux temps trois mouvements l'histoire d'un braquage qui tourne mal, qui conduit le même Robey à tirer sur un policier, puis à se fondre dans la foule avec une grosse somme d'argent sur lui. Puis le film devient une histoire d'amour malade et tordu sur la brèche du sadomasochisme, puisque Robey tombe sur une jeune femme naïve, Peg, jouée par Shelley Winters, dont il va se servir comme couverture. Et puis le film devient ensuite, encore une fois, il se transforme, il devient une prise d'otage. Robey s'invite dans l'appartement de Peg et tient toute sa famille, d'humbles employés, sous la menace de son revolver. Et le film s'enfonce ainsi, encore une fois, dans un huis clos vénéneux, qui est une sombre fermentation d'emprise et de désir, qui ne laissera aucun personnage indemne.
You're really coming with me, aren't you?
Sure, Nick, sure.
Well, your things, aren't you going to take anything?
Everything's ready. I'm all packed.
Oh, that's good, that's good. That car, why didn't it get here? Well, it better get here. Hey, we're really going to make it, aren't we? We're really going to make it, huh?
Yes, Nick, we will.
You don't think your father's going to try anything, do you?
I think he'd be too scared of hurting me.
He was wild when he left here.
I know, but he won't.
He better not. He just better not. Just when I... Don't move. Don't move, I tell you. Don't move. You told him. Somebody told him.
You were gonna kill me.
No. I need you.
On est ici au cœur de la relation tumultueuse qui rythme le film, l'amour impossible entre Nick et Peg, qui va révéler en chacun une ambiguïté tragique et même une rivalité de classe, puisque tous les deux sont pauvres, mais pas exactement au même niveau. Nick va exposer la racine de la violence qui l'habite et qui l'empêche d'être complètement aimable. Cette racine, c'est une logique de survie qui le renvoie mécaniquement à la loi du talion, au chacun pour soi, qui le prive de la moindre empathie et qui rend évidemment l'amour impossible. Et Peg, quant à elle, elle va être amenée à exposer la vraie nature de son désir, sauvage, obscur, animal, trouble, puisqu'elle se range aux côtés de son agresseur. Donc l'amour est rendu doublement impossible par ses affects biaisés, dans une tournure finalement, alors on a dit c'est un film qui a plusieurs vies, mais une tournure assez sorkienne dans les dernières scènes du film. La mise en scène de John Berry, elle impressionne par sa souplesse, son agilité. Il passe des scènes tournées en extérieur dans des décors incroyablement vivants, l'entrepôt, la piscine, les vestiaires, etc., à des intérieurs particulièrement oppressants. Il restitue le sentiment paranoïaque et en même temps tragique qui plane sur le parcours de Nick, parcours qui est une suite de mauvais choix en fait. Il va démultiplier les cadres et les points de vue originaux dans tous les angles de l'espace, parfois les plus surprenants, la rampe d'un escalier, les recoins qui déforment un petit peu la vision avec des visages inscrits au premier plan. Et il faut ajouter à tout ça une lumière tout en contraste, en contre-jour luisant, qui installe un climat moite et suintant. On est au cœur d'un été torride dont cette chaleur pèse évidemment sur le destin tout tracé des personnages. Tout ça aurait suffi à faire un grand film s'il n'y avait en plus les acteurs. Vraiment sublimes, magnifiques, déchirants. Shelley Winters dans son premier grand rôle est déjà une incarnation du malentendu amoureux. Déjà dans la peau de ces femmes qui ne sont pas aimées pour elles-mêmes mais utilisées. Ce sera la même chose dans La Nuit du Chasseur de Charlton et la même chose dans Lolita de Kubrick. Et puis John Garfield. Alors Alors lui, il est sublime, hein. C'est évidemment son dernier grand rôle. Animal traqué, bête fauve, tout à coup sensible, enfant triste et colérique, qui voudrait simplement faire partie de la famille, mais n'arrive pas à se défaire de cette violence endémique. Sa malédiction, il est tour à tour électrique, vibrant, inquiétant, fiévreux, doux, vulnérable, vulgaire, émouvant. Il est formidable. Banni d'Hollywood, il mourra un an plus tard sur le trottoir de New York en s'écroulant après avoir consommé pas mal de barbiturique.
Merci Mathieu Macheret. Menace dans la nuit de John Berry est ressorti sur les écrans en version restaurée mercredi dernier. On peut aussi se le procurer en DVD chez Wildside Video avec un livre de Samuel Blumenfeld, Le dernier film noir. Et puis la musique qu'on entend, elle est de Franz Waxman, musicien chéri de Billy Wilder. On ne s'en sort pas. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Jacques Hubert. L'émission a été préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, plan large sur le cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan. L'occasion de la sortie de l'intégrale de son œuvre en coffret Blu-ray. Nous serons avec le critique Frédéric Mercier et Entebin. Avant cela, j'aurai retrouvé certains de vous pour une séance France Culture au Majestic Bastille. Ce sera mardi prochain, 22 janvier à 20h, avec Valeria Bruni-Tedeschi, qui viendra débattre avec vous à l'issue de la projection de son nouveau film, Les Estivants. Pour l'instant, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.